vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 20 juin 1791, la fuite à Varennes. Louis XVI part pour la forteresse de Montmédy, en bordure de la frontière des Pays-Bas autrichiens. Pour parcourir ces 286 kilomètres, il emprunte jusqu'à Clermont-en-Argonne, pendant 217 kilomètres, la grande route qui relie Paris à Metz, puis la quitte à Clermont pour gagner Montmédy par la route de Dun et de Stenay. La première halte prévue sur cette voie secondaire est Varennes. C'est là que l'armée doit fournir les attelages. Cette cité de l'Argonne est le point extrême du parcours des chevaux de poste. Il est donc nécessaire, pour continuer le voyage, de posséder des chevaux de l'armée. La grosse berline attribuée à la famille royale est préparée par le comte Axel de Fersen et conduite par lui-même à 20h le 20 juin 1791 dans la cour de l'hôtel de Madame Martin, Crawford, rue de Clichy. Son cocher, Balthazar, doit la conduire à vide jusqu'à la barrière Saint-Martin, s'y trouver à minuit et demi et attendre. Le départ de la famille royale s'opère en deux temps. La gouvernante de garde réveille à 22h le dauphin et madame. Fersen les prend par la main et les fait monter dans une voiture. Commence alors une lente promenade pour rejoindre le roi au petit carrousel. Un long détour est effectué en direction de la barrière Saint-Martin pour s'assurer que la berline est bien partie de l'hôtel Crawford. Le retard est déjà conséquent lorsque la voiture royale arrive à la barrière de Paris. Là, Fersen découvre sur la route la berline bien rangée dans le fossé et les lanternes éteintes. Les six voyageurs passent de la première dans la seconde voiture. Fersen prend les rênes. À Bondy, le premier échange de chevaux se déroule comme prévu. Fersen prend congé du roi. Il part à cheval vers la Belgique, où il arrive sans encombre le soir même. À 7h, le cortège rejoint par la voiture de deux femmes de chambre, plutôt parties des passe-maux. Tout se passe pour le mieux à chaque relais. Il en est ainsi jusqu'au 12e, celui du pont de Sommevel, où le roi rencontre le premier poste militaire. Trois groupes de cavaliers sont disposés sur la route du souverain. Le premier à Sommevel se compose de 40 hussards du régiment de dragons, le troisième du régiment de Lauzun, commandé par le duc de Choiseul. Le deuxième à Sainte-Ménéhoule comprend 30 dragons. Le troisième à Clermont en Argonne, 145 dragons. Vers 5h45 de l'après-midi, Louis XVI arrive à Sommevel, où les hussards sont absents. En effet, Choiseul, ne voyant pas venir le cortège royal, leur a donné l'ordre de partir. C'est le premier des contretemps qui perturbe le cheminement du roi. Aux Tuileries, la fuite de la famille royale provoque une formidable effervescence. Le peuple se masse dans la cour du carrousel et envahit le palais jusqu'à ce que la garde nationale l'évacue. Lafayette commande à tous les citoyens d'arrêter le roi et de le ramener à Paris. À Varennes se trouvent les avant-postes de l'armée du marquis de Bouillé. 60 hussards, presque tous allemands. Ils sont casernés au cœur de la ville basse, dans l'ancien couvent des Cordeliers. Un équipage attend le roi à l'entrée de la cité, à l'endroit où la route venant de Clermont pénètre dans la ville haute. Mais par une funeste précaution, à la dernière minute, il est décidé de l'abriter dans les communs de l'hôtel du grand monarque, dans la ville basse, à l'emplacement du relais de poste. Au couvent des Cordeliers de Varennes, les 60 hussards disparaissent rapidement. Pendant que deux gardes du corps de Louis XVI cherchent en vain les chevaux de poste et les hussards de l'escorte, la voiture du souverain est immobilisée à l'entrée de la ville haute. Le roi et son troisième garde du corps parlementent avec les postillons qui, ayant pour ordre de conduire les voyageurs jusqu'à Varennes, mais pas au-delà, puis de rentrer à Clermont, ne veulent pas faire un pas de plus. La promesse de pourboire les décide enfin à accepter d'aller jusqu'au pont de l'Air à la sortie de Varennes. La voiture fait ainsi 200 mètres, mais au moment où elle passe sous la voûte de l'église qui enjambe la route, elle est brusquement arrêtée à 120 mètres seulement du pont par des hommes brandissant des lanternes. Pour échapper au désordre, l'épicier Jean-Baptiste Sauce, procureur syndic de la commune qui participe à l'arrestation de Louis XVI, oblige les voyageurs à se reposer dans sa maison en attendant le jour. L'identité des prisonniers est connue une heure plus tard. En effet, Sauce a l'idée de convier un ancien magistrat qui a souvent vu le roi à Versailles. Il monte le petit escalier de bois qui mène à la chambre de la famille royale. Il s'arrête, plie le genou et prononce ces paroles. « Ah, sire, eh bien oui, je suis le roi, » répond Louis XVI. Au même moment, arrivent à Varennes Choiseul et les troupes qui auraient dû protéger le roi. Le duc y voit le roi, il est prêt à tout et met son dévouement et sa vie à la disposition de Louis XVI, qui refuse toute résistance et se déclare disposé à rentrer à Paris. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant la chronique littéraire Un jour trois livres qui a été préparée comme chaque semaine par Emmanuel. Nous rendons hommage aujourd'hui à Françoise Hardy qui vient de nous quitter. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès. C'était en octobre 1964, Mon ami la rose.
On est bien peu de choses. Et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Quand j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres préparés par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Nous commençons par Rouge Venin de Philippe Séguy aux éditions Albin Michel. En 1666, la cour de France s'amuse au château de Saint-Germain. Elle est jeune et brillante, insolente, sulfureuse. Dans ce cadre des plaisirs enchantés, un astre surgit, Louis XIV. Le roi a un frère, Philippe, duc d'Orléans, soldat courageux, passionné d'art et d'amour au masculin. Ce jeune prince ambigu aime un homme qui aime les femmes, Philippe de Lorraine, dont la beauté de l'ange foudroie quiconque l'approche. Crapule fastueuse et fatale, sans morale, ambitieux, fasciné par le pouvoir, il frappe au cœur. C'est donc le grand siècle, et particulièrement Philippe de Lorraine, que nous suivons ainsi au fil du temps. Rouge Venin, c'est le nouveau roman historique de Philippe Séguy, paru aux éditions Albin Michel. Le Cercle des femmes rebelles d'Alison Goodman aux éditions Albin Michel encore. Que faire quand on est une femme dans l'Angleterre de la Régence? À 42 ans, les sœurs Colebrook n'ont épousé que leur destin. Si Lady Augusta, dite Gus, rejette le mariage, Julia, sa jumelle, pleure la mort de son bien-aimé. Reléguées à leur statut de vieille fille, toutes deux revendiquent leur liberté dans une société dirigée par des hommes. Aussi, lorsque leur amie, Lady Charlotte Davenport, se retrouve aux prises avec un amant qui la fait chanter, les sœurs n'hésitent pas un seul instant à voler à son secours. Bientôt, c'est une aristocrate séquestrée par son mari, puis une orpheline kidnappée par les tenanciers d'une maison close qui ont besoin d'aide. Y a-t-il meilleure manière pour les sœurs Colebrook, en s'improvisant détectives et aventurières, de rendre justice aux femmes et de prouver qu'elles sont les égales des hommes? Le Cercle des femmes rebelles d'Alison Goodman s'est paru aux éditions Albin Michel. Et toujours chez Albin Michel, pour terminer cette chronique, Le mystère Étienne Rabotin de Gauthier Planckaert. Au début du XXe siècle, la France de la Troisième République est secouée par une série d'attentats perpétrés au nom d'un mystérieux anarchiste que personne n'a jamais rencontré, Étienne Rabotin. Avec pour seul indice le mot « marmotte » griffonné sur un bout de papier. Marcel Martin, commissaire de police parisien, pousse l'enquête jusqu'à Fragonard, un village de Savoie où le curé règne encore en maître. Suzanne, une jeune paysanne qui entretient une relation secrète avec l'instituteur, décide de l'aider. Martin, ravi de trouver une oreille attentive à ses idées progressistes, la prend sous son aile. Mais quand un villageois est retrouvé mort, la petite communauté conservatrice, déjà apeurée par l'industrialisation qui s'annonce, glisse vers le chaos. Alors que les rancunes s'exacerbent, Suzanne et Martin s'interrogent désespérément « Qui est Étienne Rabotin ?» Un chef de file anarchiste, un symbole, une idée, un excellent roman policier, tout en psychologie. Le mystère Étienne Rabotin, c'est chez Albin Michel et c'est écrit par Gauthier Planckaert. Voilà pour cette chronique littéraire. Merci à Emmanuel qui l'a préparée. Merci à Thomas qui a réalisé cette émission. Nous nous quittons en chanson avec toujours Françoise Hardy. C'était en 1962, Le temps de l'amour.
Et de l'aventure, quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. C'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient.